Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Iran a frappé cette nuit des bases abritant des soldats américains en Irak. Des raids en forme de représailles, 5 jours après la mort du général Soleimani. Donald Trump prendra la parole à la mi-journée tout à l'heure. Nous irons à Washington dans cette édition.
Direction ensuite Beyrouth puis Tokyo. La conférence de presse de Carlos Ghosn est très attendue aujourd'hui. L'ancien patron de Renault-Nissan doit s'expliquer sur sa fuite vers le Liban.
Et quand Jean-Luc Mélenchon défend Carlos Ghosn, voici le thème du billet politique de Frédéric Seyss. Il nous rejoindra après ce journal.
Avant cela, nous reviendrons sur la mort d'un homme de 42 ans après avoir été interpellé par la police à Paris. L'autopsie révèle une asphyxie avec une fracture du larynx.
La réforme des retraites toujours et cette question aujourd'hui, les fonctionnaires auront-ils la possibilité de choisir une retraite progressive comme dans le privé avec du temps partiel en fin de carrière? Des négociations débutent ce mercredi. L'Iran aura donc attendu 5 jours pour répliquer. 5 jours après la mort de son général Qassem Soleimani et de son numéro 2, tué par les Américains en Irak. Les représailles ont débuté cette nuit sur le même terrain en Irak. Les gardiens de la Révolution ont envoyé 15 missiles sur 2 bases utilisées par l'armée américaine. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Grégory, la télévision iranienne évoque ce matin 80 morts. Ce n'est pas le cas de la Maison-Blanche.
Non, on a là 2 bilans extrêmement contradictoires. Au Pentagone, on nous dit que ces frappes n'ont fait quasiment aucun dégât et qu'il n'y a pas de victimes. C'est aussi l'information qui nous arrive via les autorités irakiennes. Et puis au même moment, la télévision publique iranienne, la télévision officielle à Téhéran, affirme que, je cite, 80 terroristes américains ont été tués, parlant donc de très nombreuses victimes. Un peu plus de 8 heures se sont écoulées depuis ces bombardements et on est clairement dans une guerre de communication. Alors qui dit vrai? S'il y a des morts, on devrait le savoir de toute manière assez rapidement. En tout cas, dans un tweet publié 4 heures après ces frappes, Donald Trump semblait indiquer de manière implicite qu'il n'y avait pas de morts côté américain. On est en train d'évaluer les dégâts, écrivait le président américain, mais jusqu'ici, tout va bien. Ces 15 missiles balistiques ont visé 2 bases irakiennes qui abritent, vous l'avez dit, des soldats américains, Erbil dans le nord du pays et Al-Assad à l'ouest. Il était 1h20 du matin, heure de Bagdad, l'heure précisément à laquelle le général Soleimani a été tué la semaine passée par les États-Unis. L'opération lancée par Téhéran porte d'ailleurs le nom du général défunt.
Et maintenant, Grégory, quelle réaction peut-on imaginer de la part des Américains? Donald Trump doit prendre la parole tout à l'heure.
Alors, Donald Trump a promis une déclaration ce mercredi matin, c'est-à-dire en début d'après-midi pour vous. Évidemment, la réaction américaine est très attendue. Vous vous souvenez qu'il y a encore 3 jours, Donald Trump promettait aux Iraniens une réponse immédiate et disproportionnée s'il ciblait des intérêts ou des ressortissants américains. Et nous ne sommes pas ce matin, Clara, dans une réponse immédiate.
Merci Grégory. Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. Je précise également que les gardiens de la Révolution en Iran ont menacé cette nuit de frapper Israël, ainsi que les alliés des États-Unis, demandant toujours aux Américains de retirer leurs militaires de la région. Il n'en est pas question pour Washington, mais plusieurs pays européens ont déjà pris des mesures, Valérie Crova.
Le contingent allemand basé à Bagdad et à Taji, au nord de la capitale irakienne, a quitté le pays hier. 35 militaires de la Bundeswehr ont été transférés sur une base de l'armée de l'air allemande en Jordanie. D'autres ont été déplacés au Koweït. 90 soldats allemands restent toutefois positionnés au Kurdistan irakien. Les militaires italiens n'ont pas prévu de partir. En revanche, les soldats qui étaient jusqu'à présent sur une base américaine à Bagdad ont été repositionnés dans une zone plus sûre en début de semaine, au lendemain de la mort du général Soleimani. L'Italie dispose de 600 hommes en Irak, dont un détachement des forces spéciales. La France a également fait savoir hier qu'elle n'avait pas l'intention de retirer ses soldats d'Irak, mais que leur sécurité avait été renforcée. 200 militaires français sont actuellement sur place, dont 160 sont affectés à la formation de l'armée irakienne. Les autres se trouvent au quartier général de la coalition dans la zone verte de Bagdad. Pas de retrait non plus pour les 400 soldats britanniques, mais 50 d'entre eux auraient été déplacés hors de la capitale irakienne.
Un terrain de violence qui fait bondir les cours du pétrole, plus 5% cette nuit, qui fait aussi chuter les bourses, moins 2,4% à Tokyo. Autre actualité iranienne ce matin, le crash d'un Boeing 737 d'une compagnie ukrainienne. L'avion s'est écrasé ce matin juste après son décollage de Téhéran. Tous les passagers et les membres de l'équipage sont morts. Cela représente 168 victimes au moins, selon les premiers chiffres communiqués ce matin. Elle crie au complot industriel, évoque une vengeance des procureurs japonais. La femme de Carlos Ghosn, Carole Ghosn, s'exprime ce matin dans les colonnes du Parisien, 10 jours après la fuite de son mari du Japon vers le Liban. L'ancien patron de Renault-Nissan, lui, a prévu une conférence de presse en début d'après-midi. Il est toujours accusé de malversations financières au Japon et la contre-offensive médiatique débute depuis Beyrouth, Aurélien Colli.
C'est le grand jour pour Carlos Ghosn, celui qu'il attendait et qu'il préparait depuis des mois selon son entourage pour faire enfin entendre sa version et répondre aux fausses accusations, insiste un de ses avocats, en annonçant un Carlos Ghosn en pleine forme, combatif, qui veut parler et prendre le temps de s'expliquer. Pendant cette conférence de presse, minutieusement préparée avec l'une des agences de communication les plus réputées de France, l'ancien PDG reviendra sur les raisons de son départ du Japon, échappé à un système judiciaire injuste qu'il avait déjà condamné. Mais il ne donnera aucun détail sur sa fuite, prévient un de ses proches. Rien sur cette exfiltration digne d'un roman d'espionnage, n'en déplaise aux 150 journalistes du monde entier invités au Press Club de Beyrouth. Pour cette opération médiatique d'envergure internationale et réglée dans ses moindres détails, Carlos Ghosn s'exprimera en effet en anglais et l'horaire a été choisi pour garantir la plus large exposition. 15h au Liban, 14h en Europe, 22h à Tokyo, 8h à New York.
22h à Tokyo où les déclarations de Carlos Ghosn seront évidemment scrutés. Là-bas aussi, la réplique médiatique a débuté, Karine Nishimura.
Les autorités japonaises s'activent avant la conférence de presse de l'ex-patron de Nissan. La ministre de la Justice, Masako Mori, et ses services offrent aux journalistes des séances inédites d'explications sur le système judiciaire japonais, fustigé par Ghosn et ses proches depuis un an.
Je pense qu'il est important que le système judiciaire japonais soit bien compris au Japon et à l'étranger. Nous allons donc nous efforcer de diffuser des informations justes.
Le gouvernement balaie aussi d'avance les éventuelles dénonciations nominatif que s'apprêterait à faire Carlos Ghosn.
Je suis le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Je ne vais pas commenter des rumeurs. Comme vous le savez tous, le Japon est un état de droit et nous traiterons cette affaire comme doit le faire un état de droit.
Enfin, les enquêteurs ont décoché une flèche inattendue. Un mandat d'arrêt pour faux témoignage contre Carole Ghosn. Celle qui était auparavant la femme de Carlos Ghosn est devenue dans les médias
Carole Yogisha,
la suspecte Carole, au risque de nourrir encore les accusations de collusion entre Nissan, la justice et les médias japonais.
C'était Karine Nishimura depuis Tokyo pour France Culture. Les feux continuent de ravager l'Australie où 8 millions d'hectares sont partis en fumée depuis le mois de septembre. Au moins 24 personnes sont mortes, 500 000 000 d'animaux également. L'écologue Franck Courchamp, directeur de recherche au CNRS, était hier soir l'invité du journal de 22h sur France Culture. Interrogé par Stanislas Vazak, Franck Courchamp expliquait qu'un tiers des koalas ont déjà disparu en Australie, ce qui augmente le risque de leur disparition prochaine.
Même si la population existe, l'espèce existe encore, elle ne peut plus fonctionner dans le long terme. Les animaux sont beaucoup trop peu nombreux pour pouvoir créer une population qui soit pérenne sur le long terme. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce qui est important de voir, c'est que 4 animaux sur 5 en Australie ne vivent qu'en Australie. C'est une île continent qui a évolué en isolement par rapport au reste du monde. Et donc, on y trouve des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Toutes les espèces dont j'ai parlé, l'ornithorynque, le wallaby, le kangourou, le koala, c'est des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et donc, lorsqu'une espèce disparaît d'Australie, il y a 4 chances sur 5 pour que ce soit une espèce qui disparaisse donc de la surface de la Terre.
L'Australie ravagée par les flammes et avant elle l'Indonésie, la Sibérie. 2019 sous les feux, c'est un article détaillé à retrouver sur franceculture.fr.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Un homme interpellé par la police vendredi a été victime d'une asphyxie avec fracture du larynx.
Oui, ce sont les premiers éléments de l'autopsie communiquée hier par le parquet de Paris. Cédric Chouvia avait 42 ans lorsqu'il est décédé effectivement vendredi après une interpellation par des policiers à Paris. Voici les faits avec Antoine Marette.
Cédric Chouvia était livreur, il travaillait en scooter. Vendredi dernier, dans la matinée, il est l'objet d'un contrôle routier près de la Tour Eiffel. Très vite, le ton monte. Cédric Chouvia décide de filmer son interpellation avec son smartphone, tout comme d'autres personnes présentes sur place. Sur les images, on le voit ensuite à terre, sur le ventre. Il se débat sous le poids de 3 policiers. Cédric Chouvia est ensuite transporté en urgence à l'hôpital Pompidou, où il décède 2 jours plus tard. De quoi est-il mort ? Les premiers éléments de l'autopsie révélés par le parquet de Paris évoquent une asphyxie avec fracture du larynx. Pour l'avocat de la famille, maître Harry Halimi, ce sont probablement les gestes effectués par les policiers qui sont à l'origine de ce décès.
On peut dire aujourd'hui que si Cédric Chouvia est mort, c'est parce que les policiers ont pratiqué probablement une clé d'étranglement, mais également un plaquage ventral au sol à 3 pendant un certain temps. Ce que l'on savait de la préfecture s'est avéré faux, à savoir qu'il y aurait eu une interpellation liée à un caractère agressif, violent, qu'il aurait fait trébucher des fonctionnaires de police et qu'il aurait eu un malaise cardiaque spontané non lié à l'intervention des fonctionnaires de police.
La famille de Cédric Chouvia a déposé une plainte pour violence volontaire commise par personne dépositaire de l'autorité publique en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Elle est ce matin en garde à vue pour association de malfaiteurs à but terroriste. La compagne de l'assaillant de Villejuif a été interpellée hier. Lors d'une conversation téléphonique, elle avait déclaré vouloir mourir sous les balles des policiers. Vendredi, son compagnon avait poignardé des passants à Villejuif, tuant une personne. Il avait été abattu. Édouard Philippe fait un pas vers la CFDT et propose de nouvelles discussions à partir de vendredi. Le Premier ministre a accepté hier l'idée d'une conférence sur le financement du futur système de retraite. La question de l'âge pivot, en revanche, n'est pas retirée du texte. En ce 35e jour de grève, les trois quarts des TGV devraient rouler. Pas de changement, en revanche, en Ile-de-France, à la RATP. Un appel à la mobilisation nationale est toujours lancé pour demain, jeudi. Et d'ici là, les négociations se poursuivent, branche par branche. Ce mercredi, les syndicats de fonctionnaires sont invités par leur secrétaire d'État, Olivier Dussopt, et celui chargé des retraites, Laurent Pietraszewski. Il sera notamment question de la retraite progressive, ouverte donc aux fonctionnaires, peut-être Catherine Pétillon.
Le principe, c'est de continuer à travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une partie de sa pension et donc de continuer à cotiser. Quand on s'arrête complètement de travailler, la retraite est recalculée. Dans le privé, il est possible d'opter pour la retraite progressive à partir de 60 ans, mais cela ne concerne qu'environ 18 000 salariés, entre autres parce qu'il faut l'accord de l'employeur et parce que le dispositif reste peu connu. Si la FSU reste très opposée à la réforme des retraites dans son ensemble, elle reconnaît qu'ouvrir ce dispositif aux fonctionnaires pourrait être intéressant, à condition que cela soit vraiment un nouveau droit, avertit Benoît Teste, son secrétaire général.
Jamais le gouvernement ne précise si cette possibilité serait ouverte avant 62 ans. Et s'il s'agit de l'ouvrir seulement après 62 ans, ça s'apparente plutôt à un dispositif de cumul emploi-retraite, c'est-à-dire continuer à travailler, au besoin à temps partiel parce qu'on est trop usé par le travail, mais qu'on n'aura pas accumulé suffisamment de points pour bénéficier d'une pension décente.
Conditions d'accès, âge limite, valeur du point acquis dans la période sont autant d'inconnus, sans oublier les questions connexes, mais tout aussi cruciales, souligne l'économiste Annie Jolivet, chercheuse au CNAM.
Est-ce qu'on a la possibilité de cotiser sur la base du temps plein, donc le salarié de son côté et puis l'employeur par ailleurs? Est-ce qu'on prend en compte la base du temps plein aussi pour des questions de prévoyance, pour les primes de licenciement?
Avec cette difficulté particulière, souligne l'économiste, si ces questions font l'objet d'accords d'entreprise, la fonction publique, elle, n'a pas le même type de négociation sociale. En tout cas, les syndicats de fonctionnaires attendent des explications sur la manière dont le gouvernement envisage ce dispositif. À cette heure, personne n'en a.
Il y aura aussi des négociations à Radio France ce mercredi, des discussions en tout cas entre syndicats et direction au 37e jour de grève. La direction prévoit, je vous le rappelle, un plan de suppression de postes et de 60 millions d'euros d'économies, ce que refusent les syndicats, Éric Chavroux.
La grève a repris à Radio France, avant tout orchestrée par la CGT, avec également des annulations de concerts de l'Orchestre Philharmonique le week-end dernier et une mobilisation chantée du chœur de Radio France à la Maison de la Radio, très relayée sur les réseaux sociaux. Les antennes sont à nouveau quelque peu perturbées, alors que la direction met en avant un nombre très faible de grévistes. La cérémonie des vœux de la PDG, Sybille Veil, aux salariés, ce matin, pourrait être l'occasion d'une annonce, avant ce qui est présenté au syndicat comme une journée de négociation et avant quelques réunions par métier. Toutes les organisations représentatives seront tout à l'heure autour de la table pour ce que la CFDT qualifie de simple échange sur des points et sur un calendrier après un premier contact le 19 décembre. Des pistes ont été évoquées, 210 postes supprimés au lieu de 223, de nouvelles solutions juridiques pour les salariés souhaitant partir ou une négociation concernant les précaires. Des techniques pour rendre un peu moins douloureux le plan et toujours une orthodoxie budgétaire aveugle, estime Sud. Globalement en accord sur le fond, les syndicats diffèrent dans leur stratégie et beaucoup alertent sur des risques psychosociaux à plus ou moins court terme. Le ministre de la Culture et de Tutelle, Franck Riester, maintient de son côté le même discours depuis des semaines. Je cite « la confiance à Sybille Veil nommée par le CSA pour dénouer le conflit et un effort demandé à Radio France » soutenable.
Franck Riester qui s'est directement adressé aux grévistes sur le réseau social Twitter hier. Il a fait part de son incompréhension, de son indignation après l'annulation d'émissions à Radio France traitant de la liberté d'expression. Jour anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo, a-t-il souligné. La CGT de Radio France s'indigne de ces mots et rappelle dans un tweet également que le ministre n'a pas reçu les représentants des grévistes depuis 36 jours. Le conflit continue. Seul le sud de la France sera au sec aujourd'hui, sous une ligne allant de Bordeaux à Lyon. Ailleurs et donc au-dessus de cette ligne, les averses vont durer toute la journée. Comptez 3 degrés ce matin à Strasbourg, 4 à Lyon, 9 à Bordeaux, 11 degrés à Rennes, Paris, Lille et Perpignan.